Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes, réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu.
Alors, nous commençons cette deuxième rencontre, le Christ, sagesse de Dieu, par un bilan de l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'à la fin de l'Ancien Testament, la sagesse a acquis une personnification sans être pour cela une personne hypostatique. Cette identification va servir à mieux comprendre le mystère du Christ. Qu'est-ce qui a conduit à faire de la sagesse une personne? Plusieurs explications peuvent nous être données. Tout d'abord, eh bien, un certain échec du courant messianique qui, dans l'Ancien Testament, ne cesse de remettre à l'avenir sa réalisation, la venue du Messie, au point qu'on peut se demander si un beau jour, en fait, le Messie va venir. Et vous savez que les Juifs l'attendent toujours. Pour remédier à cette incertitude, la sagesse va prendre la place du Messie et elle va prendre toutes les fonctions du Messie attendu. Ainsi, il ne sera plus utile d'attendre des biens messianiques à venir, qui n'en finissent pas de venir, parce que la sagesse, c'est elle qui les a. Donc il suffira maintenant de vivre de sagesse pour avoir ces biens messianiques. Une autre façon de comprendre pourquoi on en est arrivé à la personnification de la sagesse, c'est qu'en utilisant une sagesse personnifiée, on va mieux respecter la transcendance de Dieu. Et alors c'est une sorte de procédé littéraire qui va éviter de parler de Dieu directement, mais qui permettrait quand même d'être la voix divine qui s'adresse à l'homme au nom et à la place du Seigneur. De toute façon, la foi d'Israël est très claire. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur et ne peut pas y avoir d'autres personnes que lui. Et notre foi chrétienne reprendra cette affirmation en disant qu'il n'y a que trois personnes dans la Sainte Trinité, il ne peut pas y en avoir une quatrième. Mais, comme la sagesse est une réalité connue de toutes les civilisations, elle doit avoir quand même un statut particulier. Et nous avons vu qu'elle ne peut venir que de Dieu, sans être de Dieu, comme une personne qui n'est pas une personne. Comme nous-mêmes, nous avons un fondement hypostatique. Notre être est définitivement une personne qui franchira la mort, qui a toutes les qualités d'une personne à l'image de Dieu. elle n'est pas une personne avec un fondement hypostatique. Et pourtant, on voit bien qu'elle est de tout le temps auprès de Dieu. Tel est son mystère. Elle habite l'homme, elle permet à l'homme d'être divinisé, elle lui permet de pouvoir recevoir Dieu sans elle-même être Dieu et nous-mêmes aussi sans l'être. Elle se présente comme créatrice, mais en fait c'est Dieu qui est créateur. Et elle assiste à ses œuvres en les admirant. Elle habite l'homme, elle habite la création, sans provenir de la création, puisqu'elle vient de Dieu. Avant que le monde ait été créé, la sagesse est là. Alors cette personnification va poser des questions sur son origine, sur la distinction qu'il y a entre elle et les personnes divines, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faudrait-il voir dans la sagesse une certaine révélation des personnes divines? Est-ce qu'alors on va la référer au Christ? Est-ce qu'on va la référer au Saint-Esprit? Est-ce qu'on va lui... Mais va-t-on lui garder un statut personnel? Voilà toutes les questions qui vont se poser au sujet de la sagesse dans la tradition. Eh bien, c'est sur ce fond biblique de révélation et en même temps de mystère que, propre à l'Ancien Testament, que Jésus va se révéler lui-même la sagesse de Dieu. Commençons par chercher dans les évangiles ce qui justifie qu'on peut dire que Jésus est la sagesse. Alors, si nous commençons par les synoptiques, certains textes en témoignent, même s'ils ne sont pas très nombreux, de cette qualité de Jésus, d'être sagesse, qui est cachée et implicite dans des textes. Eh bien, c'est surtout dans les paroles de Jésus, qu'on appelle les logia, qui ont été transmis par Matthieu et Luc, qui vont nous fournir les matériaux desquels nous pourrons extraire des discours du Christ du genre sapientiel, de façon à ce qu'on puisse dire qu'il se rapporte à Jésus comme étant dépositaire lui-même de la sagesse. Alors, ces deux évangélistes, Matthieu et Luc, ont puisé dans une source commune écrite en grec et ils en ont fait un travail d'interprétation personnelle. Le premier. Alors, le premier texte sera Luc 2, 40. Dans ce texte, on lit « L'enfant grandissait, se fortifiait, devenant plein de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Et au verset 52, Luc reprend la même affirmation « Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu. » Luc ne dit pas que Jésus était plein de sagesse, mais qu'il croissait chaque jour en sagesse. Cette sagesse est d'ordre de la connaissance expérimentale et non pas de la vision de science, de connaissance infuse que Jésus possède en tant que fils de Dieu. Ça, c'est très difficile. Il faut faire la distinction. C'est par la pratique de la vie ordinaire que le Seigneur donc a voulu assumer librement, en prenant une condition humaine, que sa connaissance expérimentale s'est développée. Dieu regardait avec complaisance son Fils grandir en sage, en sagesse, nous a dit Saint Cyrille de Jérusalem. Autre texte, Luc 2, 41, c'est la rencontre de Jésus avec les docteurs du temple. Là, Jésus va manifester sa grande sagesse. ses réponses sont si pertinentes, malgré son jeune âge, que tous ses auditeurs sont hors d'eux-mêmes, très étonnés. Ils ne parviennent pas à comprendre comment un enfant de cet âge peut être aussi instruit. Et ses parents aussi sont étonnés. Et pourtant, ils avaient l'habitude de vivre avec ce garçon, avec sa sagesse, son intelligence. Et il ne semble pas pourtant que Marie et Joseph comprirent le sens profond de la parole que Jésus leur dit pour expliquer sa conduite. « Je dois être aux affaires de mon Père ». La suite nous montrera toute cette sagesse du Fils de Dieu quand il se révélera dans sa passion et sa résurrection. En Marc 6, 2 ou Matthieu 13, 54, nous avons un autre texte qui est très représentatif de la sagesse de Jésus. Alors, dans ce texte, il s'agit en fait d'une scène de Nazareth où Jésus étonne ses auditeurs et qui, alors, amène ses auditeurs à se poser la question « Mais d'où lui vient cette sagesse ? Comment cet homme qui ne cesse de faire des miracles, dont la réputation ne cesse de grandir, que les Nazaréens connaissaient très bien, pouvait-il être devenu du jour au lendemain un rabbi sans avoir fait les études indispensables pour cela? Car pour devenir un rabbi, il fallait étudier la sagesse, faire des stages auprès d'un docteur célèbre. La sagesse ne s'apprenait que à l'école des sages. Mais alors, d'où lui vient cette sagesse ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Pour les Nazaréens, Jésus ne pouvait être que le fils de l'artisan bien connu, Joseph. Et quand on place cet épisode dans l'histoire de tout le développement messianique, on comprend alors en fait que c'est un moment de remise en cause de Jésus. Depuis un an, Jésus fait des miracles. Il donne un enseignement différent des rabbis. Les gens sont amenés à se poser des questions, déjà, pour la question de savoir si cet homme ne serait pas le Messie. N'est-il pas le fils de David, c'est-à-dire le Messie ? Et la contestation est arrivé jusqu'aux habitants de Nazareth. Là, Jésus scandalise ses auditeurs, parce qu'il n'est pas possible pour eux qu'il soit le Messie, puisqu'il est un enfant du pays, et qu'on connaît très bien toute la famille. Et pourtant, il est évident qu'il fait des miracles, depuis Capharnaüm et dans tous les environs. Et alors, d'où lui vient cette sagesse ? Malgré les miracles, malgré donc la sagesse dont fait preuve Jésus dans ses actions, les cœurs se ferment parce qu'ils sont incapables d'aller au-delà de leur horizon humain, incapables en fait d'accueillir le mystère. Et ça continue aujourd'hui. L'incrédulité va se changer vite en hostilité. Déclaré. C'est tout le mystère du Christ que nous amener les uns après les autres à nous déterminer en face de ces questions essentielles que Jésus représente de la vie et de la mort, de l'existence de Dieu et de son plan de salut du monde. Encore un autre texte, Luc 7, 29 à 35. Dans ce texte, on voit que des pharisiens et des légistes n'ont pas voulu recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et de ce fait, ils n'ont pas pu comprendre le plan de salut que Jésus venait réaliser au nom du Père. Au verset 35, Luc dit, écrit, « La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Eh bien, nous avons là un enseignement important sur la sagesse dont fait preuve Jésus. Car, par opposition aux pharisiens, demeurés insensibles à tous les appels de Dieu, incrédules à la parole de Dieu, il en est qui se sont soumis au plan divin, qui ont écouté le Baptiste et qui maintenant suivent Jésus. Ce sont les enfants de la sagesse, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Dieu, personnifiés par la sagesse. Et les autres, bien qu'il ne s'agisse pas de tous les Juifs, s'opposent à l'enseignement de Jésus. Ce sont les pharisiens, les docteurs de la loi, alors que les foules mettent un grand empressement à suivre Jésus. Ces maîtres en Israël ne peuvent pas être appelés des fils de la sagesse, car ils n'ont pas compris le plan divin, qui était un plan providentiel qui a été préparé par Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, qui était plus qu'un prophète, qui était venu comme précurseur pour annoncer la mission de Jésus. C'est Jésus qui doit instaurer le royaume des enfants de Dieu. Et les enfants de la sagesse sont donc non seulement les apôtres, mais tous les petits, tous les humbles qui ont cru à la parole de Jésus et qui, après avoir reconnu le ministère de Jésus, dépositaire de la sagesse, l'ont suivi. Ne sommes-nous pas de ses enfants ? Puisque nous adhérons à Jésus et que nous pouvons croire qu'il incarne la sagesse de Dieu, le plan de salut du Père. À notre tour, nous sommes les enfants de la sagesse. Un autre texte encore. Luc 11, 29 à 32. C'est un texte qui parle d'une condamnation de la génération qui refuse Jésus et qui, en refusant Jésus, refuse la vraie sagesse. Alors ce texte met en scène Salomon, dont la renommée de la sagesse était répandue partout. Et alors même jusque chez la reine de Saba, qui a voulu aller voir et écouter la sagesse de Salomon pour profiter de ses enseignements. Elle n'hésita pas à entreprendre un très long voyage. Mais que pouvait être la sagesse de Salomon comparée à la sagesse, à l'enseignement du Fils de l'homme? Combien plus grande est celle de Jésus? Les Juifs n'ont même pas eu à se déranger pour aller l'entendre. C'est lui, Jésus, qui est venu au milieu d'eux pour les instruire. Refuser d'écouter la démarche de la reine de Saba, mais c'est refuser encore beaucoup plus d'écouter la vraie sagesse qui est donnée par le Père. Alors dit le texte, la reine de Saba aura le droit au grand jour du jugement, alors que Dieu demandera des comptes à tous, de condamner l'aveuglement volontaire des contemporains de Jésus qui ont refusé de voir en lui l'envoyé du Père, le dépositaire de la vraie sagesse. Le verset 32 nous est donné comme exemple de refus d'écouter la vraie sagesse, celui aussi des habitants de Ninive. Ninive, ce sont des païens, Ils se sont convertis à la voie de Jonas, qui leur était pourtant un étranger. Et ils ont manifesté de grandes marques de repentir. Et Jésus dit, en prenant cet exemple, il y a ici plus que Jonas, c'est-à-dire bien plus haute, et ma mission bien plus élevée, mon enseignement est bien plus grand, bien plus nombreux les miracles que j'accomplis pour légitimer mon intervention auprès de vous tous, mes contemporains. Cette affirmation de la grandeur du Fils de l'homme qui dépasse Salomon, qui est au-dessus de Jonas, aurait dû faire réfléchir les auditeurs sur la véritable personnalité de celui qui leur parlait au nom de sa sagesse. Hélas, ils n'ont pas voulu le comprendre. Et ce sera pour eux une honte au jour du jugement, de se voir condamnés par les païens qui, eux, ont accepté l'appel de Dieu. Ils n'auront qu'une excuse à invoquer pour détourner d'eux le châtiment. Jésus se trouve donc là encore investi d'une sagesse bien supérieure à celle de Salomon, qui pourtant passait pour être le représentant le plus célèbre de la sagesse. Encore un autre exemple, Luc 11, 33, 36. Dans ce texte, il s'agit de la lampe de l'œil. Cette lampe, dit Jésus, quand on la met sur... Elle est faite pour mettre sur un support et non pas pour être cachée. Eh bien, Jésus est cette lampe destinée à éclairer le monde. Et le Fils de l'homme ne l'a pas dissimulée dans une cave ni sous un boisseau. Il l'a mise en évidence pour éclairer tous ceux qui entrent dans la maison. La prédication du Sauveur et ses miracles ont manifesté cette lumière au monde, prouvant la présence de la sagesse au milieu des hommes. Mais pour que cette lampe éclaire ceux sur lesquels elle projette sa lumière, il faut un cœur qui la reçoive. Comme toute la perception du monde extérieur dépend de la vue, qui, si elle est parfaitement saine, permet de recevoir tous les objets jusque dans leur plus petit détail, alors qu'un défaut de cet organe compromet la vision, il doit en être de même pour ceux qui veulent voir Jésus, la lumière venue du monde. Il faut un cœur pur. Il faut accepter, se disposer à recevoir la lumière. Pour cela, écarter tous les obstacles qui pourraient s'opposer en nous-mêmes à la pénétration de la lumière divine. Et le principal obstacle que Jésus combat dans ses adversaires, c'est l'orgueil. Les adversaires de Jésus avaient acquis leur science. En étudiant la loi, les traditions, ils se croyaient et ils croyaient que leur connaissance était supérieure à celle de la sagesse de Jésus. Jésus dit au contraire, si ton œil est bon, si dans ton intelligence, ta volonté, ton cœur, tout est dirigé vers l'amour de la vérité et du bien, c'est-à-dire vers la vraie sagesse, alors tout ton être sera parfaitement éclairé par la lumière du Christ, qui est la vraie sagesse. C'est le cas de tous les disciples qui ont reconnu la sagesse de leur maître et qui ont vu en lui, qui ont pu discerner en lui le Messie. Alors ils pourront faire briller aux yeux des autres cette lumière qu'ils ont accueillie, et ils deviendront à leur tour des enfants de la lumière. Luc, en 10:21, nous montre que Jésus, tressaillant sous l'action du Saint-Esprit, a béni son Père en disant « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages, mais de l'avoir révélé aux petits. Oui, Père, tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Fils, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Là, nous voyons que Jésus loue son Père, sa bonté qui se manifeste avant tout pour les petits, de préférence aux grands. Il a caché aux savants tout ce qui est le mystère du royaume, la rédemption du monde que le Fils va faire par l'offrande de sa vie. Ce mystère, qui est essentiellement celui de la croix, échappera complètement aux sages de ce monde, emmurés dans leur orgueil. Et ce sont les petits, aux humbles du cœur, selon la tradition des pauvres du Seigneur, de Yahvé, qui recevront la lumière, la connaissance du mystère du Père et du Fils par le don du Saint-Esprit. Là encore, la vraie sagesse est lumière des yeux, dit le psalmiste, et elle illumine le cœur du croyant. Et Jésus, ce jour-là, tressaille de joie dans la vision de cette sagesse du Père qui se sert des petits pour accomplir son œuvre de miséricorde. Et maintenant, nous pouvons nous tourner sur l'évangile de Saint Jean. Il y a une façon de lire le prologue de Saint Jean en voyant que dans ce prologue, Jean reprend, au nom de Jésus, tous les thèmes de sagesse des proverbes. Depuis Baruch, aussi le livre de la sagesse, toute la tradition prophétique. Ce prologue, que vous connaissez, est le chef d'œuvre de Jean, qui a donné lieu à de nombreuses études, et on comprend pourquoi. Néanmoins, dans ce prologue de Saint Jean, on peut s'arrêter à cette question. Comment se fait-il que Jean ne parle pas de sagesse? Je ne sais pas si, quand vous avez lu, relu ce prologue de l'évangile de Saint Jean, cela vous a frappé. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, tout fut par lui, etc. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme, il était dans le monde. Les siens ne l'ont pas accueilli, mais ceux qui l'ont accueilli ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Et en dernier lieu, alors on parle d'une gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et que la loi fut donnée par Moïse, et la grâce et les vérités sont venues par Jésus-Christ. Voilà, on ne parle pas de sagesse. On ne dit pas que Jésus est la sagesse de Dieu. Pourquoi Saint Jean n'écrit-il pas « Le Verbe était la sagesse » ou « Il est la sagesse » ? Il emploie le mot « Fils » qu'en dernier lieu, en disant que le Fils qui est tourné vers le sein du Père. Et du Christ, il ne dit qu'une seule fois « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et ensuite, la révélation et à sa suite, toute la théologie nous donne des noms, des mots, pour qualifier le mystère divin. On parlera du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Verbe et de l'image. Alors, il est difficile de trouver un sens plus particulier à chacun des mots « fils »,« verbe »,« image ». Il semble que ce soit des mots qui soient tous interchangeables. Pourquoi Jean ne parle pas de sagesse ? Peut-être pouvons-nous penser que c'est parce que le mot « sagesse » est au féminin. C'est la sagesse. Et que saint Jean a voulu l'éviter pour éviter de penser qu'il pourrait y avoir une sexualité en Dieu. Et pourtant, en écrivant le prologue, Jean s'est souvenu de toute la tradition sapientielle. Lorsqu'il dit que le Verbe était auprès du Père éternellement, eh bien, on se rappelle de ce que disait le proverbe 8e. De la sagesse qui disait elle-même « Dès l'éternité, je fus établi. » Ou bien encore en Ben Sira, chapitre 24, « Je suis issu de la bouche du Très-Haut, j'ai habité dans les cieux, mon trône était une colonne de nuée. » Donc, Jean, quand il écrit ce prologue, il a cet arrière-fond, cette connaissance de l'Ancien Testament, de la sagesse de l'Ancien Testament. Et c'est avec cette connaissance-là qu'il essaie d'exprimer le mystère de ce Jésus qui est apparu parmi nous, qui s'est dit le Fils du Père, qui est, pour Jean, égal au Père, Verbe éternel. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. On voit donc que dans ce prologue reprend toute la tradition sapientielle. Pour tous les exégètes, saint Jean a bien reçu de l'héritage de la tradition sapientielle l'inspiration à présenter de cette façon-ci le mystère du Christ en se rappelant tout ce que déjà l'Ancien Testament avait fait, avait déjà apporté. Alors, nous allons maintenant quitter les évangiles et nous allons demander à Paul comment lui-même a réfléchi et compris que la sagesse avait fait son habitation, particulièrement dans le Christ, dans le Fils de Dieu, que le Christ était devenu, on peut le dire, sagesse de Dieu, d'une sagesse qui est en opposition à celle du monde. Alors pour cela, nous allons regarder Colossiens 1, 15, 17. Alors, si vous avez même des Bibles avec vous, Colossiens, Rococo. Gaïfi, Colossiens 1, 15, 17. Alors, nous sommes à 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On a vraiment l'impression d'écouter à nouveau. Proverbe 8. Dans cet hymne d'action de grâce, de la primauté du Christ, Paul chante le Christ véritable sagesse, en qui réside la plénitude de la divinité. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, au verset 19. Et ce cantique d'action de grâce récapitule en fait tous les mystères de la personne du Christ. On pourrait le prier vraiment presque tous les jours pour connaître le Christ. Colossiens 1, 15. Dans l'Ancien Testament, on a trouvé des idées semblables à propos de la sagesse personnifiée, qui elle-même se présentait comme antérieure à la création. Elle a été dite médiatrice de toute la création. Et nous retrouvons, si vous voulez continuer cette étude, je vous donne des références. Proverbes 3, chapitre 3, versets 19 à 20. Proverbes chapitre 8, verset 30. Sagesse, chapitre 9, versets 1 et 2. Ben Sira, chapitre 24. On peut donc décrire en fait le Christ avec les traits de la sagesse personnifiée. Premièrement, l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Eh bien, l'image, vous le retrouvez dans Sagesse 7, 26. Il est antérieur à la création, premier-né de toute création, de toute créature. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Eh bien, cela, vous le retrouvez dans Proverbes 8, que nous avons vu, versets 24-26, ou encore dans Sagesse 9, chapitre 9, verset 9. Il est aussi la tête de l'Église, c'est-à-dire il est le principe premier-né. Et par lui, il est venu réconcilier tous les êtres. Il est donc médiateur. Eh bien, c'est ce qu'était la sagesse, annoncée en Proverbes 8, 30, ou bien encore en Sagesse 7, 21, ou encore en Sagesse 9, 1, 2. On lit encore que c'est lui qui a fait l'unité sur la terre et dans les cieux. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Eh bien, vous retrouvez cette annonce-là de l'unité du Créé en Sagesse, chapitre 1 à 7. Dès lors, pourquoi faire ce travail-là que j'ai fait, sinon pour faire voir, pour qu'on puisse voir, que saint Paul, en écrivant ce texte de la primauté du Christ, en fait, lui aussi, est imbu de toute la tradition sapientielle de l'Ancien Testament, et il décrit le Christ comme cette sagesse réalisée, annoncée dans l'Ancien Testament et réalisée. Et on peut dire que cette sagesse personnifiée n'est quand même pas non plus le Christ, qu'il y a entre le Christ et la sagesse annoncée de l'Ancien Testament, même si on s'en sert pour mieux comprendre le mystère du Christ, il y a entre l'un et l'autre, entre la sagesse personnifiée et puis ce qu'est la sagesse de Jésus, un abîme infranchissable, puisque Jésus est d'origine divine. Il est le Verbe fait chair. La préoccupation des lettres de Paul sera de cerner le plus possible les diverses facettes du mystère infiniment riche du Christ. Et les matériaux pour cela qu'il empruntera, il les empruntera à la tradition sapientielle et qui serviront à étayer le double aspect du Christ, Seigneur, et qui est aussi Fils de Dieu, mais non séparé de ses frères et du monde. Alors disons enfin que l'expression que Paul utilisera, sagesse de Dieu, recouvre la totalité du projet salvifique de Dieu, sans pourtant désigner une sagesse personnifiée, donc Paul ne parle pas, mais néanmoins, cette sagesse est une réalité qui permet à Paul de percevoir le projet de création et de rédemption de Dieu dans le Christ Jésus. Cette sagesse de l'Ancien Testament qui a permis à Paul de pouvoir exprimer le mystère du Christ, cette sagesse-là n'est pas une doublure, elle n'est pas l'égale de Dieu. Elle est divine sans être Dieu, elle est un don de Dieu, on ne peut pas vraiment l'identifier au Christ. Même si elle sert à exprimer son mystère. Alors, qu'est-ce donc que cette sagesse? Quel est donc le mystère de cette sagesse qui est une réalité qui sert à exprimer le mystère, mais qui n'est pas divine. Et pourtant, c'est cette sagesse-là avec laquelle Dieu a créé le monde, et c'est avec cette sagesse-là aussi qu'il l'a rachetée par la croix de son Fils. Une sagesse que le monde ne peut pas comprendre, mais qui sauve celui qui en fait son guide. La sagesse de Dieu. Alors nous poursuivons maintenant encore cette lecture de 1, 15 à 2, 1. Donc nous allons plus loin. Puisqu'il est le Fils éternel, préexistant à toutes les créatures qui ont été faites par lui, il possède donc la nature divine. Il est consubstantiel avec le Père, qui lui a donné sa nature. Il est l'image du Dieu invisible. Et par son humanité, le Christ est la manifestation de Dieu. Saint Irénée de Lyon dit quelque chose qui est très beau pour exprimer cela. Il dit qu'il est l'exégète du Père. C'est-à-dire que, en fait, il exprime le mystère du Père. Il rend visible l'invisible de la nature divine. Il est l'engendré, le premier de toute créature. Toutes les créatures ont été faites sur lui. Il est l'instrument par lequel le Christ se sert pour créer. Et en même temps, il fait connaître le Créateur. Le terme de premier-né dans la tradition juive était d'abord appliqué à Israël, puis au roi qui représentait, donc au roi qui le représentait, et enfin au Messie. Et maintenant, le terme de premier-né est attribué par Paul au Christ en affirmant son intériorité d'existence, sa transcendance de nature, et sa souveraineté sur tout le créé. Au verset 16, c'est en lui que tout est créé, dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Paul nomme les puissances célestes en lui. C'est-à-dire qu'il est le principe. Et il est le principe par lequel tout a été créé, mais il est aussi l'univers lui-même créé, qui est son corps, de sorte que tout existe en lui. Et par lui, et pour lui, dit saint Paul. Tout a été créé, et le but de la création. La création a été créée pour le Christ. Ça, c'est extraordinaire. Au verset 17, il est au-dessus de tout. Il est unique. Il est la tête au-dessus des choses et distinct de cet univers, mais tout en étant le Créateur. C'est reconnaître qu'il n'est pas un élément du monde. Ce n'est pas un panthéisme. Il est la tête de l'Église. Et l'Église qui est son corps. Il est le principe, non seulement de tout ce qui est, mais aussi la cause de la résurrection des morts. Il est le premier-né d'entre les morts, dit Paul. Il est le premier ressuscité pour donner la résurrection aux autres. Il est tout. Il est la prééminence de tout. Pourquoi ? Parce que Dieu, le Père, s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. Il est le premier, le seul auteur de la grâce et du salut du monde. Il infuse la vie spirituelle aux siens. Il est la plénitude absolue, de la plénitude de l'être. Il est tout ce qui appartient à la divinité. Il possède toutes les perfections divines et surnaturelles et de façon permanente. Au verset 20 et 23, il est par sa nature divino-humaine le seul à pouvoir être médiateur entre Dieu et les hommes. Par lui, tout a été réconcilié, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. C'est-à-dire que Dieu le Père a voulu se réconcilier par lui toutes choses. Et cette réconciliation s'étend à toutes les créatures que le péché avait détournées de leur fin. Il a réalisé cette réconciliation par le sang de sa croix. Au verset 24. Je trouve, en ce moment, dit Paul, ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète en ma chair, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Toujours le chapitre 1er, le verset 24. Cette sagesse que Paul nous a méditée et dont il nous parle, conduit Paul à une participation aux souffrances même du Christ. Cette sagesse de Dieu devient une communion de grâce. Et alors souffrir avec le Christ et dans le Christ, c'est alors continuer son œuvre de salut du monde. Et Paul est heureux, dit-il, de souffrir pour aider le Christ. Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et j'achève ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son corps qui est l'Église. Ce texte est extraordinairement important pour notre union au Christ. Il s'agit de toutes les peines et les souffrances que nous supportons, nous, chacun, pour le salut du monde. Quelles étaient ces souffrances particulières de Paul ? En quoi consistaient-elles ? Certainement dans son activité apostolique. Eh bien, il en sera de même pour le chrétien, qui par ses activités veut continuer celle du Christ présent au monde. Et c'est par son amour qu'il complétera le Christ. Paul est assuré que ses travaux, ses propres souffrances apostoliques, ont profité et profiteront aux Colossiens auxquels il écrit, pour lesquels il écrit, indépendamment de l'action directe sur les hommes, par la parole et par l'exemple, la prière proprement dite et les œuvres et les mérites des justes servent aux autres membres de l'Église. Et ainsi se vit une communion des saints fondée sur l'unité du corps mystique. Le Christ a enduré dans son corps, dans son âme, du commencement à la fin de sa vie sur la terre, des souffrances, qui, selon saint Paul, sont incomplètes. C'est pourquoi Paul put les compléter par ses propres souffrances. Il en est ainsi pour nous tous dans l'Église. En fait, il est évident que ne manque rien de la passion du Christ. Le Christ a sauvé absolument le monde par lui-même et par sa croix. Mais il a voulu limiter son ministère personnel à la Palestine et il a laissé à ses collaborateurs de pouvoir propager ce ministère de la réconciliation dans le monde entier. Et alors comment le feront-ils? Eh bien par l'offrande de leurs propres souffrances, de leur fatigue, de leurs prières, par leur acceptation de souffrir pour compléter le Christ. Et c'est ainsi que la souffrance humaine prend dans le Christ un sens de communion pour le bien de tous. Et elle devient un acte d'amour qui est fécond de grâce pour le bien des hommes. Sans que la personne qui offre sa souffrance dans le Christ sache à qui elle va faire du bien. C'est un mystère. Comment le Christ utilise nos souffrances pour le rachat du monde, de telle et telle personne. Ce mystère de la souffrance, c'est la nouvelle sagesse de l'amour que ne peut pas comprendre le monde en dehors du Christ. Et alors, saint Paul en vient à confronter cette sagesse avec celle du monde. Colossiens 2, 1, 15. Oui, le Christ tel que vous l'avez reçu, dit-il en 2.6, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciner, édifier en lui, appuyer sur la foi, de tel qu'on vous l'a enseigné et débordant d'actions de grâce. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Alors il s'agit en fait de la gnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose? Dans un sens qui est que non orthodoxe, c'est une façon de pouvoir se sauver soi-même par la connaissance qu'on prend des mystères sans qu'il soit besoin de passer par le Christ et son Église. C'est une sorte de fuite vers le divin qu'on peut atteindre au moyen d'une ascension intellectuelle basée sur la connaissance philosophique qui est enrichie par des spéculations sur les esprits, sur les anges. C'est ce que les gens vous disent très souvent que vous recevez.
sur les anges, mais les anges, ils viennent quand même de Dieu.
Oui, mais ça dépend lesquels. Il y a les anges vrais et les anges chutés. Là, la gnose est non orthodoxe. Il y a une gnose orthodoxe, celle qui effectivement peut recevoir par l'intermédiaire des anges des biens célestes, des communications, comme l'archange Saint-Michel vient annoncer à Marie l'incarnation du Fils de Dieu. C'est une connaissance, là, que l'ange a reçue du Père et qu'il vient transmettre à Marie. Ça, c'est une connaissance orthodoxe. Mais la connaissance non orthodoxe, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, on vous parle du New Age, de tous ces gens qui atteignent des esprits célestes, etc., etc. Eh bien, Paul dit que tout cela est vain, absurde d'aller chercher dans toutes ces spéculations, ces spécieux discours qui ne sont ceux que de la fausse sagesse et qui semblent à l'époque séduire les Colossiens et qui sont toujours là pour nous séduire nous-mêmes. Alors au verset 2, chapitre 2, verset 6, il dit « Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher. » Et il parle « Faites attention aux événements, aux éléments du monde. » Alors qu'est-ce que c'est ? Une tradition toute humaine selon les éléments du monde et non selon le Christ. Quels sont les éléments du monde ? Ce sont les principes qui constituent les corps matériels de l'univers, d'abord. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, on parlait des quatre éléments qui étaient ceux qui faisaient le monde, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre, l'eau, l'air, la terre et le feu. Ou encore les forces de la nature, que l'on disait animées par des esprits et des génies qui les commandent. Philon décrivait les étoiles comme des êtres raisonnables, vivants, divins même. Ou encore, on parlait des éléments du monde en parlant d'êtres personnels, des génies, des théories animistes qui avaient le cours à Colosse, ou des anges et d'autres forces de la nature. Eh bien, tous ces éléments du monde, dit saint Paul, ne peuvent que vous détourner de la véritable sagesse. Et saint Jean lui-même écrit en 1 Jean 1, 16, que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, vient non du Père, mais du monde. Et en 4:2, il dit, « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Ça, ça peut nous servir beaucoup dans les rencontres que nous pouvons avoir avec les gens, d'une façon vraiment impérative. Eh bien, voilà pour cette lecture. Et maintenant, je vais vous donner, si vous voulez, si vous avez le temps encore de supporter un petit... Si vous n'êtes pas trop fatigué.
C'est toi qui
dis, de ce que dit la tradition. Alors, comment la tradition, après l'Ancien Testament, après Paul, a-t-il reçu cet enseignement ? Voilà la question. La première, c'est d'abord en hébreu. Ce fameux texte premier d'hébreu, qui est un texte extraordinaire. Hébreu 1:1-4, le Fils est le resplendissement de la gloire divine. un texte merveilleux d'Hébreu. Et qui est, voilà, Hébreu, et qui introduit la réflexion de prédicateur, qu'on appelle le prédicateur, celui qui a écrit les mots. Après avoir maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Donc il ne s'agit pas du tout maintenant de dire de situer le Christ au milieu des anges, il est tout à fait au-dessus de tout, absolument. Alors les auteurs du deuxième et troisième siècle, comment ont-ils reçu tout ce message? Eh bien, ils ont référé la sagesse au Christ d'une façon générale. On voit dans toute la littérature que pour eux, c'est le Christ qui est la sagesse de Dieu. Par exemple, au deuxième siècle, Théophile d'Antioche dit, écrit ceci, Dieu engendrera son Verbe qui était immanent en son sein et il le produisit avec sa sagesse avant toute chose. Ce Verbe est comme le ministre de toutes ses œuvres, c'est par lui que tout a été créé et fait, c'est lui l'Esprit de Dieu, principe et sagesse et force du Très-Haut qui descendait sur les prophètes. Donc en fait, pour cet auteur, Le Christ est la sagesse elle-même. Tertullien, deuxième siècle, même identification de la sagesse de Dieu. Il écrit, si toutes les choses ont été créées par la sagesse de Dieu, Dieu en créant le ciel et la terre au commencement, c'est-à-dire au début, qu'il les créa, il les créa dans sa sagesse. Cette puissance et cette disposition de l'intelligence divine se manifestent dans les Écritures sous le nom de sagesse. Quoi de plus sage que la raison ou la parole de Dieu? La sagesse exprimant en tant que seconde personne est d'origine divine. Dieu m'a créé au commencement de ses voies, en vue de ses œuvres. Avant les collines, il m'a engendré. Alors donc, en reprenant une fois de plus encore ce texte qui ne cesse pas d'être repris, qui est Proverbe 8, Tertullien dit que cette sagesse-là, que cette sagesse qui était personnifiée, en fait, il s'agit de celle de la sagesse qui exprime la seconde personne, qui est donc la seconde personne, qui est donc le Verbe. Donc il fait une identification avec de la sagesse au Christ. Clément d'Alexandrie, le Fils est la puissance de Dieu, en tant que Logos originel du Père, antérieur à tous les êtres. On pourrait dire la même chose de la sagesse. Il est le maître de ceux qui ont été modelés par son intermédiaire. Là encore, le Fils, en tant que puissance de Dieu, est référé comme étant la sagesse, et on peut dire la même chose de la sagesse et du Fils. Ce qu'on dit de la sagesse, on peut le dire du Fils. Donc, on fait une assimilation, une identification. Origène, maintenant, Dieu le Père a toujours été. Il a toujours eu un Fils unique, qui est en même temps appelé sagesse. Cette sagesse faisait la joie de Dieu quand il eut achevé le monde. Alors, il ne s'agit plus de la sagesse qu'on avait entendue dans le Proverbe. C'est maintenant vraiment le Christ, selon Origène. Dans cette sagesse qui était toujours avec le Père, la création était toujours présente et tout se trouvait dans la sagesse. L'Écriture dit « tout a été fait dans ta sagesse ». Si absolument tout a été fait dans la sagesse, puisque la sagesse a toujours existé, Tout se trouvait dans la sagesse préfigurée et très formée avant de l'être substantiellement dans la suite, c'est-à-dire dans le Christ Jésus. De même qu'une maison ou un navire se bâtit ou se construit sur les plans de l'architecte, et que cette maison ou ce navire a pour principe le plan et les règles de travail de l'entrepreneur, de même, toutes choses ont été créées selon les règles déterminées d'avance par Dieu, dans sa sagesse, pour ses créatures, car il a tout créé dans sa sagesse. Or, nous savons par un autre côté que c'est lui, le Christ, qui a créé. Donc, on fait une assimilation du Christ créateur, unique créateur, avec cette sagesse par laquelle il a tout créé dans sa sagesse. Irénée de Lyon, il est le seul, lui, à référer la sagesse non pas au Christ, mais au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la sagesse est féminine. Et on comprend qu'elle pourrait être mieux référée au Saint-Esprit qu'au Christ. La sagesse, c'est un mystère féminin, la sagesse. Alors, il vaut mieux quand même la référer au Saint-Esprit, qui lui-même est féminin, plutôt qu'au Christ, qui est masculin. C'est une belle réflexion que le Verbe, c'est-à-dire le Fils, fut toujours auprès du Père, nous le savons, mais la sagesse, qui n'est autre que l'Esprit, était également auprès de lui, avant toute création. Et c'est ce que nous dit par la bouche de Salomon, « Dieu, par la sagesse, a fondé la terre », ou encore « Le Seigneur m'a créé comme principe de ses voies en vue de ses œuvres. Avant les siècles, il m'a fondé. Lorsqu'il préparait le ciel, j'étais avec lui. Lorsqu'il affermissait les sources de l'abîme, lorsqu'il consolidait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui, répandant l'harmonie. » Donc il reprend, Irénée de Lyon, il reprend tout Proverbe 8, mais il voit dans cette sagesse le Saint-Esprit lui-même. Toute l'exégèse médiévale maintenant, pour tout le temps de cette exégèse, la sagesse est référée au Christ et elle est identifiée à lui. Joachim de Flore veut trouver que le Christ est sagesse de Dieu et pour cela il commence par dire que la sagesse atteste d'elle-même qu'elle est née de Dieu le Père. Donc elle est fils. Qu'elle a été conçue, engendrée avant toute chose, par celui qui a tout fait, qu'elle se tient à ses côtés. Or, c'est le Fils unique, le Fils qui a été engendré par le Père. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons dire que le Fils et la sagesse sont la même chose. Étienne de Vénizy, dans son commentaire sur Proverbe 8, il écrit « Le caractère grandiose des créatures nous mène à la connaissance de Dieu, leur disposition ordonnée nous mène à sa sagesse, leur conservation nous mène à sa bonté, et comme il est écrit dans le livre de la sagesse, à partir de la grandeur et de la beauté de la création, le Créateur pourra être connu. » Et dans l'Épître aux Romains, on lit « Depuis la création du monde, les propriétés invisibles de Dieu sont comprises au moyen de ce qui a été créé. » Alors, la sagesse est ici créatrice, comme l'est le Fils. La sagesse est donc référée à lui, de sorte qu'on peut dire « Christ, sagesse de Dieu ». Et alors, dit-il, puisque là on dit effectivement que c'est le Christ et qui est là comme créateur, et que par le Christ créateur on peut connaître le monde, ben, c'est pas la sagesse. La sagesse c'est simplement qu'un aspect, elle peut être référée au Christ. Il n'y a pas lieu d'en faire une autre personne que le Christ. Guéric de Saint-Quentin en 1245, Il dit, en reprenant toujours Proverbe 8, « Quand Dieu préparait les cieux, j'étais présente. » Salomon dit que la dignité de la sagesse est montrée dans la création, puisque toute créature vient d'elle. Il dit en effet qu'elle créa tout, que la sagesse créa tout avec le Père, qu'avec lui, elle organisa la matière créée, et troisièmement, qu'avec lui, elle voyait la création quand il affermissait les cieux au-dessus de la terre. Eh bien, ici encore, nous voyons qu'on peut interchanger le verbe créateur et la sagesse. À nouveau, on réfère la sagesse au Christ. Et en fait, une dernière interprétation mariale. Ce verset 8-24 de Proverbe a été aussi utilisé dans la liturgie de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette fête qui a été acceptée en Occident qu'au XIIIe siècle. Un dominicain italien, Bartolomeo de Vicenza, qui est l'auteur de 127 sermons mariaux, il a bien travaillé, développe l'idée que la Vierge est de l'origine, et dès l'origine, une image pensée par Dieu, et pour cela, eh bien, il va se référer, lui, une fois de plus, à Proverbe 8, 23. Alors, en écrivant, elle fut d'abord pensée par Dieu, comme par un artisan. Il s'agit donc bien de Marie. Et donc, il essaie d'exprimer le mystère, toujours à travers ce texte de Proverbe 8, qui est si important. Elle fut d'abord pensée par Dieu comme par un artisan. Il l'avait mise au-dessus de toutes les images qu'il avait projetées de faire. C'est pour cela que la sagesse dit « Dès le commencement, j'ai été créé. » C'est-à-dire, depuis l'éternité, j'ai été un projet semblable à ceux qu'on trouve chez les artisans. Salomon dit « Depuis l'éternité, la sagesse a été ordonnée. » On ne peut pas dire la même chose exactement pour Marie, car il n'est question avec Marie que d'une co-éternité, mais d'une situation au-dessus de toutes les hiérarchies angéliques. On a quand même pu faire référence à ce verset de Proverbe 8 pour Marie. Bon, il y a des références qui tiennent, mais on ne peut pas les prendre en totalité. Là, on voit bien qu'en prenant comme référence Proverbe 8-23 pour l'adapter à Marie, pour essayer d'exprimer le mystère de Marie, on va situer Marie dans l'éternité. Parce que c'est vrai que toute la réflexion que l'on fait sur Marie, c'est qu'elle a été dans le projet du Père, éternellement. Donc on peut parler, la sagesse était éternellement auprès du Père. On peut faire cette référence, cette assimilation d'une certaine façon de Marie avec la sagesse. D'ailleurs, un auteur écrira « Le trône de la sagesse », Marie, trône de la sagesse. Mais il y a des limites, parce que en fait, la sagesse, celle qu'elle est présentée dans le Proverbe 8, est éternelle. Elle est avant toute chose. Donc on ne peut pas, là, à ce moment-là, la référer à Marie. Donc il y a à la fois, quand on travaille, quand on veut faire comme ça des explications du mystère, ben on fait, vous voyez, on utilise des textes, on essaie de les adapter à une situation pour mieux déchiffrer le sens du mystère qu'on veut élucider. Mais il faut faire attention, parce que les références ne disent pas tout. Et quand on parle de sagesse, quand on parle du Christ, il faut à la fois voir que la sagesse exprime certaines choses qui font partie du mystère du Christ, son éternité auprès du Père qui crée, lui-même qui crée. Mais le Christ est au-delà de tout ça. Ça peut servir à un certain moment pour exprimer le mystère, mais ça a ses limites, parce que le Christ est au-delà de tout, en tant qu'il est le Verbe éternel du Père, le Fils éternel du Père. Alors que la sagesse, d'une certaine façon, reste une créature, même si elle est d'éternité. Vous voyez, c'est toute cette espèce d'ambiguïté, là, qui est à la fois de la parole qui nous sert à exprimer la réalité, mais qu'il faut toujours considérer comme étant une parole divine au-delà de la compréhension qu'on pourra toujours en prendre. Alors, on se servira toujours de la parole parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour comprendre le mystère, particulièrement le mystère du Christ. Mais ce mystère du Christ, qui est venu pour s'expliquer lui-même à travers, donc, et dont on a retenu certains aspects qui font les évangiles, ce mystère du Christ, qui a été si magnifiquement exprimé par Paul dans ces textes que nous avons vus, reste au-delà encore, au-delà de tout ce qu'on pourra dire de lui. Et c'est une grande béatitude. Une grande béatitude. Que Dieu soit inaccessible. Que Dieu soit infini. Parce que s'il était fini, le bonheur bougereux n'aurait, enfin, ce serait un verre d'eau qu'on pourrait boire, ce serait un verre de bonheur qu'on pourrait boire, mais il n'y aurait pas plus. La grande réflexion de tous les pères de l'Église, c'est de dire que c'est un désir infini qui nous anime et que dans l'éternité, nous n'en finirons jamais de connaître Dieu. Puisque par nature, il est au-delà de tout.